Vous êtes avec SBS French.
Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche. Les médecins généralistes disent qu'ils ne sont pas suffisamment payés pour administrer les doses de vaccins. Le Sénat américain adopte un projet de loi pour relancer l'économie du pays frappé par la pandémie de Covid-19. Tennis, Roger Federer se prépare pour son premier tournoi depuis le début de l'année dernière. Plusieurs médecins généralistes disent qu'ils ne sont pas suffisamment payés pour administrer les doses de vaccins lors de la prochaine phase de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que plus de 4500 cliniques devraient participer à la phase 1B à partir du 22 mars prochain. Mais les médecins généralistes ont écrit au ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, craignant que les allocations de vaccins à leur pratique ne soient trop faibles. Le ministre Greg Hunt déclare que plus du double du nombre de médecins généralistes se sont inscrits pour administrer le vaccin.
We have tripled the payments that we provide for the flu. So in fact, there's a very, very large payment that the Commonwealth is making. There are some who wanted to charge the patients an arm and a leg, and sorry for them. But I tell you what, the overwhelming body of general practitioners are standing up and they're doing an incredible job.
L'ancienne première ministre Julia Gillard rappelle aux Australiens de demander conseil sur les vaccins Covid-19 à des scientifiques et non à des influenceurs des médias sociaux. Madame Gillard déclare qu'une hésitation à la vaccination a été enregistrée chez les jeunes femmes australiennes qui peuvent demander des conseils de santé auprès de mauvaises sources. L'ancienne première ministre a pris la parole après avoir reçu sa première dose d'AstraZeneca, affirmant que le vaccin était sûr, efficace et empêcherait des maladies graves.
Those people on social media are not the ones to look to when you're trying to work out what to do about the vaccine. You do need to be looking at the health lines, like the Australian government information, and make sure that what you're getting is from scientists, not social media influencers.
Aux États-Unis, le Sénat a voté en faveur du plan de relance du président Joe Biden, un plan de 1900 milliards de dollars. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que l'aide était en route pour ceux souffrant de la pandémie.
You'll be getting direct checks. Your schools will receive assistance to reopen quickly and safely. Your local businesses will get another lifeline. And the day when you receive the vaccine will be a lot sooner.
En France maintenant, voyons la situation sanitaire avec le premier week-end de confinement dans plusieurs régions du pays. Précision d'Anne Verdaguer pour Radio France Internationale.
Premier week-end de confiné pour le Pas-de-Calais dans le Nord. Pour plus de 2 millions de personnes vivant dans ce département, cela signifie une attestation dérogatoire pour tout déplacement le week-end et une limite d'une heure par sortie et de 5 km autour du domicile. Le Premier ministre Jean Castex a lui rappelé que les prochaines semaines seraient très sensibles sur le front du Covid et a promis que le gouvernement allait mettre le paquet sur la vaccination au mois de mars et au mois d'avril. Jean Castex.
Nous avons décidé d'accélérer partout en France et en particulier dans les départements placés sous surveillance renforcée. On ne peut pas dire, comme je l'ai indiqué l'autre jour, si nous serons ou pas contraints de procéder à un reconfinement total ou partiel. La situation sanitaire, vous le savez, est préoccupante et tendue. Mais ce que je sais en revanche, c'est que nous devons tout faire, absolument tout faire pour l'éviter. Le gouvernement, grâce aux doses qui arrivent, a mobilisé dès ce week-end un maximum de centres de vaccination, en a ouvert de nouveaux. Il faut aussi que l'attention de chacune et de chacun soit appelée sur le respect des règles communes. Et c'est ainsi, je l'espère, que j'en suis même persuadé, que nous allons gagner cette bataille.
Et puis une vaste opération de vaccination a commencé en France. Précision de Lucie Bouteloup pour RFI.
Tout
doit disparaître. Au total, 51 000 doses de vaccin Pfizer vont être écoulées en 2 jours. Une opération qui mobilise la quasi-totalité des centres de vaccination de la région. 105 sur 123 et aussi les 12 centres supplémentaires dédiés à cette campagne et répartis sur le département d'Île-de-France. Objectif de l'opération ? Permettre aux personnes sur liste d'attente de se faire vacciner dans le week-end. Des nouveaux créneaux, donc, promis par les autorités à destination des personnes âgées de 50 à 74 ans inclus, atteintes de comorbidité, mais aussi aux personnes âgées de plus de 75 ans ou encore aux personnes vulnérables. Dans le même temps, Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé, a demandé aux hôpitaux d'accélérer avec le vaccin AstraZeneca. Selon lui, d'ici dimanche, l'assistance publique des hôpitaux de Paris compte faire 14 000 injections sur les patients, mais aussi sur les soignants. Un coup d'accélérateur donc pour cette campagne vaccinale qui connaît depuis son lancement de nombreux ratés. Reste à savoir maintenant combien de temps la cadence pourra être maintenue.
Le ministre britannique du déploiement des vaccins a rejeté les suggestions selon lesquelles le pays recevait le vaccin clé de Covid-19 destiné aux pays les plus pauvres. Des organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières ont fait part de leur inquiétude quant au fait que les vaccins envoyés de l'Institut indien du sérum réduiraient les approvisionnements vers les pays en développement. Mais le ministre britannique du déploiement des vaccins, Nadim Zahawi, insiste sur le fait que 10 millions de doses en provenance de l'Inde ont toujours été destinées à être distribuées au Royaume-Uni.
We of course sought assurances from AstraZeneca and from Serum that our doses will not impact their commitment to the low-income and middle-income countries of the world, and they are making about 300 million doses available to low and middle-income countries, and you've seen those arrive in Accra and Ghana last week and the Philippines this week and in Côte d'Ivoire and Ivory Coast as well. And you're going to see much more of that volume also going out.
Des hauts responsables de la famille royale britannique ont rendu hommage aux travailleurs de la santé du monde entier pour leur travail pendant la pandémie de coronavirus. Leurs commentaires apparaîtront dans un programme de la BBC qui sera projeté ce dimanche 7 mars pour célébrer le jour du Commonwealth. S'exprimant depuis l'abbaye de Westminster, le prince Charles a félicité la détermination et courage du peuple du Commonwealth pendant la crise.
The pandemic has shown us the true nature of a global emergency. We have learned that human health, economic health, and planetary health are fundamentally interconnected, and that pandemics, climate change, and biodiversity loss are existential threats which know no borders.
Le chef spirituel du peuple tibétain, le Dalai Lama, a été vacciné contre le Covid-19 et il encourage les gens à se faire vacciner. Il a été vacciné dans un hôpital de Dharamsala, dans le nord de l'Inde.
My trusted friend, including doctor, is it they suggest should take this injection in order to prevent some serious problem. So I took that. I want to share. More people should have courage to take this injection.
Le pape François a fait appel aux chefs religieux musulmans et chrétiens d'Irak à mettre de côté les animosités et à travailler ensemble pour la paix et l'unité. Le pape s'est rendu dans l'ancienne ville irakienne d'Our pour renforcer son message de tolérance et de fraternité interreligieuse.
L'hostilité, l'extrémisme et la violence ne sont pas nés d'un cœur religieux, ce sont des trahisons de la religion. Nous, les croyants, ne pouvons nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Des nuages sombres de terrorisme, de guerre, de violence se sont amassés au-dessus de ce pays. Toutes ces communautés ethniques et religieuses ont souffert. Je voudrais mentionner en particulier la communauté yazidi, qui a pleuré la mort de nombreux hommes et a vu des milliers de femmes, de filles, d'enfants enlevés, vendus comme esclaves, soumis à des violences physiques et à des conversions forcées. Prions pour que la liberté de conscience et la liberté de religion soient partout reconnues et respectées. La paix n'exige pas de gagnants ou de perdants, mais plutôt des frères et des sœurs qui, malgré tous les malentendus et les blessures du passé, passent du conflit à l'unité. Demandons cela en priant pour tout le Moyen-Orient, et ici je pense en particulier à la Syrie voisine, déchirée par la guerre.
Environ un millier de personnes rassemblées hier soir dans la plus grande ville de Birmanie pour se souvenir des personnes tuées lors de la répression brutale des forces de sécurité. Les manifestants ont été confrontés à des grenades et à des gaz lacrymogènes à Yangon hier, juste un jour après qu'un envoyé spécial des Nations Unies a exhorté le Conseil de sécurité à prendre des mesures pour mettre fin à la violence perpétrée par la junte militaire. Plus de 50 manifestants ont été tués depuis le début du coup d'état militaire. Mayotan a rejoint les manifestants hier soir, exhortant le gouvernement australien à prendre une position ferme contre la violence. Elle était à Adélaïde.
Now the world has witnessed about, you know, brutality of this military group. So I would request international communities, including Australian government, United Nations, some other nations like US, provide immediate response and action right now.
On passe en Afrique avec des élections en Côte d'Ivoire. Les législatives se sont déroulées hier, plutôt dans le calme. Les dernières nouvelles avec Pierre Pinto pour RFI.
Les opérations de vote se sont déroulées dans un climat apaisé sur l'ensemble du territoire, ce dont se réjouissaient tous les électeurs rencontrés ce samedi. À Abidjan, pas d'incident majeur signalé, hormis des heurts autour d'une permanence du PDCI à Port-Boué, auquel la police a rapidement mis fin, mais qui aurait fait 2 blessés. Pour le reste, si tout s'est donc déroulé dans le calme, une certaine nervosité était palpable dans de nombreux centres de vote de la capitale économique. Dans les bureaux de différentes communes, le ton est plusieurs fois monté, provoquant parfois ici ou là une suspension temporaire des opérations. Souvent, il s'agissait de représentants de candidats qui arrivaient dans les bureaux avec leur propre liste d'électeurs, ce qui était légal, mais refusé par des présidents de bureaux de vote mal informés. L'affluence a été assez inégale d'une commune à l'autre et d'un moment à l'autre de la journée. Faible affluence à Cocody et Yopougon, mobilisation moyenne à Koumassi ou Port-Boué, les bureaux semblaient davantage fréquentés au plateau. Mais hormis les scrutins présidentiels, les élections intermédiaires attirent généralement assez peu les Ivoiriens. Pour rappel, en 2016, lors des dernières élections législatives, la participation n'avait pas excédé 34%.
En Australie, à nouveau, une équipe féminine de natation vise à aider les communautés de migrants à garder la confiance dans l'eau. Et cette équipe est de retour à l'entraînement après les restrictions liées au Covid-19 l'année dernière. Les Swim Sisters espèrent donner aux femmes les moyens d'acquérir les compétences nécessaires pour nager dans l'océan. On écoute la fondatrice de Swim Sisters, Yusra Metwali, sur SBS News.
So we wanted to just bridge that gap in getting more of our swimmers more involved with surf life saving to really focus on water safety, especially when we see every summer we see some really horrific statistics about people drowning, a lot of them from Western Sydney, from migrant communities.
Des milliers de spectateurs dans le Sydney Cricket Ground pour le 43e festival du Mardi Gras hier, samedi soir. C'était la première fois que le défilé n'avait pas lieu sur Oxford Street depuis son début en 1978 en raison des restrictions liées au Covid-19. Le stade a accueilli environ 36 000 participants, une partie seulement des centaines de milliers de personnes habituelles. Un participant a déclaré que le changement de lieu n'avait pas d'effet.
Although we've had to move away from Oxford Street, as a community, you know, the bi community do face some pretty significant mental health challenges, and a lot of that is to do with lack of community connection. So no matter where it is that we are, we're just excited to be gathering together in person.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 29 également. Melbourne, 27. Hobart, 21. Canberra, 27. Sydney, 27. Brisbane, 28. Cairns, 31. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 39 degrés. Rappel des grands titres de ce 7 mars. Les médecins généralistes disent qu'ils ne sont pas suffisamment payés pour administrer les doses de vaccins. Le Sénat américain adopte un projet de loi pour relancer l'économie du pays frappé par la pandémie. Tennis, Roger Federer se prépare pour son premier tournoi depuis le début de l'année dernière. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts. Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Journal des sports de ce dimanche, avec tout d'abord le foot, plusieurs matchs de la Coupe de France, 16e de finale hier, et le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Brest, 3-0, victoire de Lyon contre Sochaux, 5-2, mais Lens a été battu par Red Star, club de la 3e division, score 3-2. Et puis Rennes a présenté cette semaine son nouveau coach, Bruno Genesio. Le point avec Antoine Grenier. Pour Radio France Internationale.
Vraiment un inconnu, Bruno Genesio, passé par le banc de Lyon jusqu'en 2019 avant de mettre le cap sur la Chine et le Beijing Guoan. À 54 ans, il remplace Julien Stéphan, démissionnaire. Il aura pour mission de redresser un club 10e de Ligue 1.
J'avais dit que mon souhait était de revenir en Ligue 1 et qu'il y avait deux critères très importants pour moi dans le choix de mon futur club. Bien sûr, le projet sportif et aussi l'aspect humain, relationnel. Et le Stade Rennais correspond à ce que je recherchais. D'une part, parce que c'est un club qui sportivement a des ambitions de jouer la Coupe d'Europe. Et la deuxième condition, bien sûr, il y a la relation avec Florian, qu'on a depuis très longtemps. Et je voudrais avoir aussi une grosse pensée pour Nicolas Hulweg, puisqu'il a été aussi un élément, enfin une personne déterminante aussi dans mon choix. Et bien évidemment, l'actionnaire, Monsieur Pinault.
Premier test pour Bruno Genesio en Ligue 1, ce sera contre Marseille.
Steve Mandanda, capitaine de Marseille, pense déjà à la prochaine saison. On l'écoute sur RFI.
On tenait, on avait fait un match assez solide défensivement. Sur une erreur, on concède ce but qui tue complètement tous nos efforts. Donc on est déçus. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. On sait qu'aujourd'hui l'objectif c'est d'essayer d'atteindre cette 5e place parce que devant ça va beaucoup trop vite pour nous. Il y a un nouveau coach qui va arriver, on verra comment ça va se passer. Essayer de bien terminer cette saison et puis repartir sur une nouvelle avec beaucoup de changements la saison prochaine.
On passe en Angleterre avec les 4 matchs d'hier, dont Leicester qui a battu Brighton. Leicester est à la 3e place et le score 2-1. En Espagne, le FC Barcelone s'est imposé contre Osasuna 2-0. Séville a battu Elche 2-1. En Allemagne, le Bayern de Munich, premier au classement, a battu le Borussia Dortmund 4-2. Le point avec Julien Messochier en compagnie d'Éric Chorin pour RFI.
Ouais, 6 buts hein, pour ce classiqueur qui a tenu toutes ses promesses. Et puis une victoire sur le fil du Bayern, 4-2. On va reprendre tranquillement hein, tellement il s'est passé de choses ce soir à Munich. Début de match tonitruant du Borussia. Le Bayern menait 2-0 au bout de 9 minutes de jeu. Et puis derrière, la machine du Bayern s'est mise en marche. 2 buts partout à la mi-temps. Des Munichois hein, archi-dominateurs qui ont finalement plié la rencontre avec 2 nouveaux buts en toute fin de match. Un scénario couronné comme on l'espérait par la prestation des deux géants en attaque. back. Robert Lewandowski, auteur d'un triplé ce soir. Le Polonais en est à 26 buts en 24 journées, avec en point de mire un vieux record âgé de presque de 50 ans qui pourrait bien tomber, celui de la légende ultime du Bayern, Gerd Müller, et ses 40 buts en une seule saison. Et puis, bien sûr, Erling Haaland qui signe un doublé après avoir ouvert le score sur sa première action dès la deuxième minute. Erling Haaland en est ce soir à 19 buts, mais c'est bien Robert Lewandowski qui est sorti vainqueur ce soir de ce duel.
Et Erling Haaland qui lui est sorti tout court sur blessure, si je ne m'abuse, Julien, hein, c'est ça?
Le match étincelant de la part du Norvégien. Il a notamment profité de deux grosses erreurs de Jérôme Boateng. Et c'est presque dommage pour Dortmund qui revenait bien et restait sur une belle série de 4 victoires, toutes compétitions confondues. On espère qu'ils vont digérer tout ça puisqu'il y a déjà la rencontre retour de Ligue des Champions mardi face au FC Séville. Et Bayern, de son côté, reprend la première place de la Bundesliga avec certes une victoire méritée, mais un match symbole de leur saison et une entame complète raté comme bien trop souvent en Bundesliga. À voir maintenant si Bayern pourra jusqu'à la fin continuer à retourner des matchs très mal engagés, parce que derrière Eric, le RB Leipzig, lui, ne lâche rien.
Et Leipzig, deuxième au classement, a battu Fribourg, 3-0. Wolfsburg, à la troisième place, s'est incliné face à Hoffenheim, 2-1. Et puis le match nul plutôt entre Eintracht Francfort et Stuttgart, 1-0. En Italie, la Juve, à la quatrième place, a battu la Lazio Rome 3-1. Au Portugal, FC Porto, à la troisième place, a battu Gil Vicente 2-0. On passe à la finale de la CAN des moins de 20 ans en Afrique avec Salem Mej Boursalem en compagnie d'Éric Chorin pour RFI.
Vous venez d'assister à la finale de la CAN des moins de 20 ans que vous nous avez aidé à vivre depuis le début de la compétition à Nouakchott entre le Ghana et l'Ouganda. Il n'y a pas eu photo ce soir, le Ghana l'a emporté.
Ah oui, absolument. Les Ghanéens ont ouvert la marque dès la 22e minute par Daniel Afrien-Banié. Et c'est le même Daniel Afrien-Banié qui a également inscrit le deuxième but à la 51e minute, évidemment, au cours de la deuxième partie. Les Ougandais, hélas, aujourd'hui, c'était pas leur jour, ils ont carrément sombré devant les Ghanéens, très déchaînés. Et il ne faut pas oublier, Eric, que les Ghanéens ont déjà remporté ce trophée 3 fois, cette fois-ci, c'est la 4e.
Oui, 4e titre après 93, 99, 2009.
Et maintenant le ballon ovale, le rugby, le dossier Covid et l'affaire du cluster de Marcoussis clos pour de bon. Précision de Antoine Grenier pour Radio France Internationale.
Le protocole sanitaire a été bien élaboré et respecté. C'est la conclusion tirée par Jean-Michel Blanquer. Le ministre des Sports recevait le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, ce matin, au lendemain de la publication des conclusions de l'enquête interne menée après l'épidémie de Covid-19 ayant touché 17 joueurs et membres du staff avant le match France-Écosse. Personne n'a enfreint le protocole, selon Bernard Laporte, mais il a été décidé de renforcer ce même protocole autour des prochains matchs du 15 de France. Bernard Laporte, le président de la Fédération, espère à présent améliorer l'image laissée dernièrement par cette affaire.
Quand quelqu'un sort de cette fameuse bulle, qui en réalité n'est pas une bulle, qu'on soit d'accord, mais c'est vrai que même s'il respecte le protocole, c'est-à-dire le masque, la distanciation sociale, etc., etc., en termes d'image, c'est pas bon, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, les ministres nous ont dit, on va mettre en plus de Raphaël Ibanez un cadre d'État nommé par le directeur technique national Didier Retière, qui vont faire appliquer ces mesures. C'est ceinture et bretelles, encore une fois, on ne sort pas, on fait une véritable bulle. C'est une évidence. Alors, le risque zéro n'existe toujours pas, on est d'accord. Mais il faut qu'en termes d'image, on montre qu'on soit exemplaire encore plus qu'on ne l'a été. Voilà, le protocole, il va aller plus loin, c'est interdit de sortir de l'hôtel. C'est aussi simple que ça.
Bernard Laporte, chez nos confrères de Radio France.
Un mot de tennis avec la finale de Doha, remportée par Petra Kvitová, la Tchèque, contre l'Espagnole Garbine Muguruza, 6-2, 6-1. Et puis à Lyon, c'est la finale ce dimanche entre la Danoise Clara Towson contre Victoria Golubic, la Suissesse. À Rotterdam, chez les messieurs, la finale ce dimanche entre Rublev, le Russe, et Fuksovic, le Hongrois. Et en Argentine, finale entre Diego Schwartzmann et Francisco Cerundolo, deux fils du sol. Et bien voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench. Vous êtes avec SBS French.
Comme chaque dimanche, nous revenons sur un événement et une personnalité qui ont marqué la semaine. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, focus sur Patrick Dupont, le danseur étoile français, décédé à l'âge de 61 ans.
Oui, le monde de la danse, de la culture qui est sous le choc. Patrick Dupont était sans aucun doute le danseur étoile de l'Opéra de Paris, le plus connu. Sa notoriété dépassait largement le cadre de l'Hexagone. Il fait partie des plus grands, à l'instar de Rudolf Nureyev, le russe soviétique, décédé en 1993 à 54 ans. Patrick Dupont, lui, avait 61 ans. Il vient de s'éteindre. Son entourage précise qu'il a été victime d'une maladie foudroyante, tout en concédant qu'il était malade depuis quelques mois. Patrick Dupont, on va le voir, on va revenir sur sa vie, son parcours. C'était un passionné, une vie passionnante, mais chaotique. Hein, toutefois, il a su plusieurs fois renaître de ses cendres. Lui qui, au tournant des années 90, était considéré comme le meilleur, le plus grand danseur étoile de la planète.
Revenons sur sa carrière. Comment s'est-il retrouvé ainsi très jeune sur le devant de la scène ?
Eh bien, Patrick Dupont est né en 1959 à Paris. Son père a quitté très vite le foyer familial. Il a été élevé par sa mère et son compagnon. Tout jeune, il a essayé le foot, le judo, mais très vite c'est la danse qui l'a ébloui, subjugué. Il n'a pas encore 10 ans quand Max Bozzoni, danseur à l'Opéra de Paris, le repère et décèle tout de suite un talent inouï chez le jeune garçon. Max Bozzoni deviendra le mentor de Patrick Dupont, qui rejoint l'école de danse de l'Opéra de Paris et va gravir très vite tous les échelons. Première distinction internationale en 1975, alors qu'il n'a que 16 ans, il obtient la médaille d'or du concours international de ballet de Varna en Bulgarie. Sa technique, sa finesse, sa force physique, ses sauts, ses arabesques incroyables, Patrick Dupont devient premier danseur de l'Opéra de Paris en 1978 et en 1980, il est nommé danseur étoile. Dans cette France des années 80, où la télé arrive dans les foyers, où de grands spectacles sont montés, Paris et l'Opéra Garnier, la tradition, Paris et l'Opéra Bastille, inaugurés en 1989, Patrick Dupont va devenir la vitrine de la danse classique de Paris, aux plus grandes salles de spectacle du monde. À l'international, Patrick Dupont rayonne, il danse, il donne vie aux plus grands classique de la danse, le Lac des Cygnes, Gisèle, Roméo et Juliette, La Belle au Bois Dormant, etc. etc. Il danse sous l'égide des plus grands chorégraphes de l'époque, Maurice Béjart, Rudolf Nureyev. Il avait conscience de son rôle, de sa place dans son art. Hein. Parlant de ses illustres aînés, il disait, Patrick Dupont, j'ai hérité d'eux et j'ai le devoir de transmettre. La danse, expliquait-il, m'a donné un cadre et une liberté, le moyen d'exister de la belle façon. Maintes fois je suis tombé, la danse m'en a sorti. En 1988, il est nommé directeur artistique du Ballet français de Nancy. Et en 1990, à 31 ans, il devient directeur du ballet de l'Opéra national de Paris, un poste qu'il occupera jusqu'en 1995.
Ensuite, à partir de la fin des années 90, Patrick Dupont a connu plusieurs déconvenues.
Oui, la chute, après avoir connu le firmament, déjà en 1997, il est remercié, licencié par l'Opéra de Paris, cette maison où il a grandi et brillé, cette maison qui l'a fait rayonner et qu'il a fait rayonner, lui, dans le monde entier. Il a été licencié pour avoir répondu favorablement au Festival de Cannes, le festival de cinéma, où il a accepté de faire partie des membres du jury. Et donc, on l'a accusé d'abandon de poste. Il n'était plus à l'Opéra de Paris, mais sans doute Y avait-il d'autres points, bien entendu, de désaccord, hein? Patrick Dupont affirmait bien qu'il n'était plus aimé au sein de cette maison qui lui devait tout. Mais ce licenciement de l'Opéra de Paris lui a fait très mal. Il est tombé en quelque sorte de son piédestal. 3 ans plus tard, en 2000, Patrick Dupont a été victime d'un terrible accident de la route. Plus de 100 fractures, un corps déchiré, broyé, des fractures au crâne, une main arrachée. Il s'en est sorti miraculeusement, les médecins le disaient définitivement perdu pour la danse. Au mieux, peut-être pourrait-il remarcher avec 3 vertèbres artificielles, eh bien, au prix d'une volonté incroyable, d'une convalescence menée avec cette soif de vivre qui l'a toujours animé. Patrick Dupont s'est reconstruit très vite. Il a fait mentir tous les pronostics et il a redansé 9 mois après son accident. Il était à l'espace Pierre Cardin pour interpréter l'air de Paris. Mais la remontée, néanmoins, a été difficile. Quelques mois plus tard, il sombrait dans la dépression, l'alcoolisme. Et il lui a fallu du temps pour retrouver l'équilibre. Et c'est cette rencontre avec Leila Darrocha, une ancienne basketteuse professionnelle reconvertie dans la danse orientale, qui va lui permettre de retrouver cette sagesse, cet équilibre. Patrick Dupont n'a jamais caché avoir eu durant toutes ces années de gloire des relations, des fréquentations homosexuelles. Mais en 2017, revenant sur sa vie privée, il avait expliqué que c'était, je cite, « une erreur, une parodie de l'amour ». Il s'était confié sur ces années où il avait vécu, dit-il, dans une solitude, finalement, une solitude sentimentale. C'est auprès d'une femme et de Leila Darrocha qu'il a donc trouvé la sérénité, cette rencontre décisive. En 2004, le grand amour avec Leila Darrocha. En 2017, ils ont ouvert une école de danse à Bordeaux. On a vu aussi ces dernières années Patrick Dupont dans différentes émissions de télévision. Il faisait partie du jury de danse avec les stars. Patrick Dupont qui s'est donc éteint ce vendredi 5 mars à 10 jours de son 62e anniversaire.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Audrey Lureau qui dirige l'Alliance française de PEUF. Bonjour à vous, Audrey.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous vos auditeurs.
Et on parle uniquement aujourd'hui du Festival du film français, la 32e édition. Et chez vous, c'est à partir du 10 mars prochain. Quelques 35 films à l'affiche, d'après ce que je comprends, et des documentaires. Peut-être on salue au passage Karine Maurice, qui est la nouvelle attachée culturelle de l'ambassade de France en Australie pour ce choix.
Oui, nous sommes très très heureux d'ouvrir notre 32e édition. Encore une magnifique édition, une magnifique sélection de films français qui nous permettent de nous évader encore un peu cette année. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de voyages. Et là, nous allons pouvoir voyager dans nos salles de cinéma à partir du 10 mars à Perth, dans 5 cinémas différents. Nous avons plus de 500 séances que nous proposons à nos spectateurs fidèles dans les différents cinémas de la ville, donc dans le centre-ville au cinéma Rennes Square, à Leederville, à Netherlands au cinéma Windsor, mais aussi à Fremantle au cinéma Luna en Essex, et puis un cinéma en plein air qui s'appelle le Camelot Outdoor aussi, qui nous permettra d'avoir quatre sessions de films les jeudis soirs. Donc voilà, 2 très beaux films, 2 très belles comédies du 10 mars au 7 avril à Perth.
Et donc pour le film d'ouverture, la Opening Night, le film Eiffel sera projeté dans 3 salles de cinéma, d'après ce que je comprends.
Tout à fait, nous avons effectivement une triple soirée d'ouverture, trois lieux différents. On a vraiment souhaité donner cette année la possibilité à un maximum de personnes de venir fêter le cinéma français dès son ouverture. Donc ce sera possible évidemment en centre-ville, malheureusement c'est déjà plein. Donc j'ai envie de dire, il faut vraiment se dépêcher en dépit du fait que nous n'ayons pas de restrictions. Donc ce n'est pas lié aux restrictions, mais les salles se remplissent très vite. Il y a une véritable attente de divertissement et d'évasion. Donc en centre-ville, c'est déjà plein. Leaderville, il reste encore quelques places, ainsi qu'à Fremantle. Donc nous aurons des réceptions, un gala d'ouverture avec de la nourriture française, du bon vin, du champagne et nos fameux tote bags à l'entrée qui vous attendent avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Donc voilà, on espère avoir un maximum de personnes qui viennent fêter avec nous le cinéma français autour de ce magnifique film Eiffel, donc sur l'histoire de Gustave Eiffel, interprété par Robin Duris. Donc ça va être assez magistral d'ouvrir cette année la 32e édition avec ce film.
On va parler peut-être des special events que vous allez organiser, les soirées spéciales après l'opening night. D'après ce que je comprends, il y a d'abord Taste of France le dimanche 21 mars.
Notre incontournable, hein, un Taste of France où évidemment c'est une Sunday session, un dimanche après-midi à partir de 15h30. Donc comme vous l'avez mentionné, le 21 mars, traditionnellement donc au cinéma Windsor à Netherlands, avec un accueil avec un verre de vin et quelques bonnes petites friandises à déguster avant le film, qui est magnifique. Hein, ce sera le film délicieux qui n'est autre que l'histoire de l'ouverture du premier restaurant en France. Donc une ode à la gastronomie française, tout en costume et à l'aune de la Révolution française. Donc vraiment un film magnifique, qui est une première aussi mondiale. Donc on est très très heureux de pouvoir l'offrir. Quelques jours plus tard, on aura notre tant attendu Ladies Night, que nous n'avons pas pu honorer l'année dernière. Donc voilà, cette année, c'est promis à Leaderville, on l'espère, le vendredi 26 mars, avec aussi un film magnifique sur les parfums, donc le métier de nez et tout ce que cela implique. Donc ce sera le 26 mars au cinéma Leaderville, et puis après la closing night en plusieurs endroits. Une fois encore à Leaderville et à Rennes Square avec le film I Am Here.
Est-ce qu'on pourrait peut-être vous demander vos coups de cœur pour cette année-ci ?
Alors j'en ai beaucoup. Hein.
Oui. Il faut voir tous les films.
Je vais essayer d'être assez concise, mais c'est vrai que c'est une belle sélection. On a beaucoup de chance d'avoir un cinéma français aussi vivant et aussi magnifique à proposer. J'ai beaucoup aimé évidemment le Bye Bye Morons, Adieu les cons. Donc cette année encore un très très beau film. Évidemment délicieux, Eiffel m'ont beaucoup plu. La Daronne, hein, The Godmother, est vraiment un des films que je recommande chaudement. Apparence aussi, hein, les apparences, c'est très très intéressant. Voilà, le discours, j'ai envie de dire, piocher, il y en a pour tous les goûts. J'ai aussi un petit coup de cœur pour justement Love Affair, qui est un très joli film dans une langue assez soutenue, et ça fait du bien, c'est agréable.
Et donc, on peut toujours aussi diriger les gens sur le site de l'Alliance française de Perth, c'est afperth.com.au pour la sélection des films.
Tout à fait, vous pouvez vous orienter et acheter vos tickets directement sur le site du festival et vous serez redirigé depuis nos réseaux sociaux et notre site web.
Et bien, comme toujours, merci à vous Audrey et bon festival du film français en 2021.
Merci beaucoup Jean-Noël et très bon festival à tous vos auditeurs.